Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir, à nouveau ensemble pour la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les Marins Perdus. Quand Diamantis ouvrit les yeux, c'est le visage de Mariette qu'il vit, son visage d'ange, rond et doux, auréolé de cette masse lumineuse qu'était sa chevelure, une apparition. Elle lui souriait. Les persiennes maintenant étaient légèrement entrebâillées, un ray de soleil s'infiltrait dans la chambre. Mariette brillait dans le contre-jour. Il lui sourit. Ses paupières se refermèrent sans qu'elle lui demande son avis. Sa tête était lourde encore. Son corps sans doute aussi. Il ne le sentait plus. La douleur l'avait rendu de plomb. Il était moite. « Comment tu te sens ?» l'entendit-il demander, se réveiller. Peut-être que si elle posait sa main sur son front, ça l'aiderait, lui ferait du bien, apaiserait cette sueur qui dégoulinait sur ses tempes. Il hocha la tête sans répondre et lui sourit une nouvelle fois. « T'es brûlant. » Et elle posa sa main sur son front, fraîche, légère. « Mariette, oasis. » Il laissa son corps s'imbiber de cette fraîcheur. « J'ai soif, » il dit, et ses yeux se refermèrent. Il raconta tout à Mariette en buvant du café. Il était habillé de neuf. Elle lui avait acheté un pantalon de toile beige, un t-shirt blanc large et même un caleçon. Le sang, ça part mal sur les fringues, elle avait dit. Elle le trouvait bel homme. Même avec cette cocarde violette presque noire maintenant sous la paupière. Bon, je ne dois pas être beau à voir. Elle rit, se leva, disparut, revint avec une grosse paire de lunettes de soleil et les lui mit sur le nez. Voilà, vous êtes très beau, monsieur. Elle rit encore et son rire le gagna. Un instant de joie, encore un grappillé sur la vie qui dehors attendait impatiente que Diamantis lui revienne, pour le happer de nouveau, avec ses questions, ses doutes, ses lois et ses règles, parce qu'on ne peut laisser la vie en plan. Une porte toujours doit être ouverte ou fermée. Il se demandait ce qu'il devait faire, ouvrir la porte pour comprendre ce qu'il avait laissé derrière lui, ou tirer la porte derrière lui pour toujours. Qu'est-ce qu'il voulait? Il n'en savait plus trop bien. Prendre des coups? Se faire amocher méchamment? Buter peut-être? Amina, se souvenait-elle seulement de lui? 20 ans. Fallait-il retourner sur ses pas? Et pourquoi? Pour confesser qu'il l'avait fui, mort de trouille, et lui dire quoi? Bon, ben, je suis désolé pour tout ça, j'ai ma vie maintenant, t'as la tienne. Est-ce qu'il faisait ça pour elle ou pour lui? Et elle, qu'attendait-il qu'elle lui dise? Je te pardonne? Je te pardonne, Diamantis? La peur de la mort, ça ne se raisonne pas. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il attendait? Uniquement cela, son pardon. Et une fois absous, qu'elle se fasse tirer par des tas de mecs n'était plus son problème. Non. Les questions se hérissaient dans la tête. Aimer engage, il pensait ça. Amina lui avait beaucoup donné, tout, son corps et ses rêves. Elle avait cru en lui, elle lui avait fait confiance, elle avait posé ses espoirs au creux de son épaule. Il n'avait pas fait que l'amour, ils avaient commencé à construire avec l'impatience des désirs. Amina, elle couchait pour la seconde fois de sa vie avec un homme. Elle lui avait confié sans honte. Le premier, elle avait dit ça comme ça, sans aucune intonation, d'une voix blanche, il ne comptait pas. Elle s'était refusée à lui en parler un jour peut-être. Sur le bateau qui l'éloignait d'elle, il s'était demandé si ce type qui l'avait dépucelé n'était pas son père, ou son copain parachutiste, ou un copain du parachutiste. Non, il ne pouvait pas. Tourner la page, c'était se résigner à admettre qu'il ne l'avait pas aimée, Amina. Aimer exigeait du courage aussi. 20 années n'étaient rien, ne changeaient rien. Il n'y avait que la vérité des sentiments, son amour, vrai, faux. Ses tempes se mirent à battre. La question ravivait sa douleur. Il la sentait remonter sa colonne vertébrale, telle une armée de fourmis. Jusqu'au crâne, elle irait. Ça allait se remettre à cogner dedans. Il devait se décider. « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il finit par demander à Mariette. Elle l'examina des pieds à la tête, sans plus sourire, avec le plus grand sérieux. « Tu veux que je te dise ?» En l'écoutant tout à l'heure, elle avait suivi Diamantis dans tout ce qui l'agitait. Il l'avait ému. C'était un homme fort. Même ses doutes ne le rendaient pas fragile. Il pouvait s'égarer, mais il ne quittait jamais des yeux le cap qu'il s'était fixé. Elle se souvint de ce qu'il lui avait dit hier à la pizzeria quand il avait parlé d'Ulysse, animé par le paisible héroïsme de rester à la mesure d'un univers parfaitement humain. Diamantis avait quelque chose d'Ulysse. Il semblait vivre pleinement au cœur de son drame, parce qu'il était foncièrement libre, et que le drame commençait toujours avec l'affirmation de sa liberté. Elle lui répondit exactement ce qu'il ne voulait pas entendre, ou ce qu'il ne pouvait plus entendre. Elle le dit avec tout l'amour qu'elle sentait naître pour lui. « Oublie le passé, Diamantis. Laisse tomber. C'est ça que je pense. Et aussi que tu devrais le quitter, ce bateau. Qu'est-ce que t'en as à foutre, hein ? Si tu veux reprendre la mer, reprends la mer. Mais ne reste plus à bord, à ruminer. » Toute sa tendresse, elle l'a mis dans ses paroles. Se persuadant mot à mot qu'il allait l'écouter, lui dire « oui ». Tu as raison. Alors elle ajouta, parce qu'il fallait aussi que cela soit dit. Tu peux venir là, sans problème, le temps que tu veux. Laure et moi, on peut s'arranger, ajouta-t-elle, pour qu'il se sente à l'aise. Je peux la prendre avec moi et te laisser sa chambre. Tu as raison, il répondit. Il savait qu'elle avait raison. « Oui, tu as raison. » Elle ne le crut pas. « Mais il faudrait que j'aille à bord, ils doivent s'inquiéter. » Ses yeux fuirent ceux de Mariette un instant. Mais c'était inutile, pensa-t-il. Il n'avait pas à lui mentir, il laissa ses yeux replonger dans les siens. « Je ne sais pas encore, Mariette, je ne sais pas. » « Je vais te conduire là-bas. » Elle l'amena jusqu'au poste de contrôle. « Ça ira ?» elle demanda en lui ouvrant la porte. Ils ne s'étaient pas parlé depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. « Ouais, 500 mètres, je survivrai » essaya-t-il de plaisanter. Puis il lui prit le bras et l'attira sur le côté. « Tu vois, c'est celui-là, là-bas, l'Aldébaran. » Il ressemble à tous les cargos, ni plus beau ni plus moche. C'est ma seule vraie maison au monde. Celui-là aujourd'hui, un autre demain. Il se retourna vers elle. Elle était belle. Ce n'était pas la beauté d'Amina, ni celle de Mélina. Peut-être ne l'aurait-il même pas remarqué dans la rue, Mariette. S'il n'avait pas connu Toinou, s'il n'avait pas, l'autre après-midi, laissé ses yeux se perdre dans les siens. Mais là, devant lui, avec cette émotion qui la gagnait et son regard qui malgré tout ne sciait pas, là, oui, elle était la plus belle femme qu'il avait jamais rencontrée. Il la prit dans ses bras et enfouit son visage dans ses cheveux. Il retrouvera cette odeur qu'il avait respirée toute la nuit sur son oreiller, une odeur qui lui appartenait déjà. « J'ai entendu tout ce que tu as dit, Mariette, mais je sais pas, j'en sais rien. J'ai besoin de... Mais... » Elle ne le regardait plus. Son regard fixait l'Aldébaran, comme s'il pouvait prendre le large. Diamantis s'essaya à plaisanter. « Tu as mes affaires sales, engage même mon caleçon. » Il se dégagea très vite, l'embrassa furtivement sur les lèvres et se dirigea vers le poste de contrôle sans se retourner. Il montra au vigile sa carte d'accès au port. Le jeune homme le dévisagea. Ses yeux s'arrêtèrent sur les lunettes de soleil de Diamantis, là où, dessous, naissait la tache violette. « Diamantis, » dit-il. Diamantis souleva ses lunettes pour qu'il puisse bien le dévisager. « Ah, joli !» il sourit, puis il ajouta « J'ai un message pour vous. » Il lui tendit une petite enveloppe blanche sur un bristol. Une main malhabile avait écrit « 14h, je suis au flot bleu, plage du prophète, jusqu'à 7h. Viens, Amina. » Amina. Son cœur se mit à battre. Amina. Il se retourna et il vit s'éloigner la voiture de Mariette. Le vigile ne le quittait pas des yeux. On vous a donné ça quand ? Bon, il y a à peine une heure. Une femme ? Demanda-t-il curieux. Juste pour savoir si Amina était venue jusque-là. Il s'en voulait déjà de l'avoir ratée. Une jeune femme, arabe, ou quelque chose comme ça. Le vigile lui fit un clin d'œil complice. Sacrément bien roulé, même. Diamantis fut déçu. Merci, fit-il pensif. Une jeune femme ? Demanda-t-il, jeune comment ? 20 ans, guère plus. Votre ami, il avait l'air de bien la connaître. Mon ami ? Le Turc, vous savez, celui qui est revenu, même qu'il est parti avec. Il était complètement largué, Diamantis. Attendez, redites-moi ça lentement.
C'était en l'an 1902, quand Jean de la Providence de Dieu ouvrit la porte sans carte blanche. Son front était cuit et recuit par les soleils et les soucis. Son sac était lourd sur sa hanche. Mais la mer du Nord s'engouffra dans le bar où tenions nos états. Y avait Machin, Chose et Langlois, y avait Frances, et c'était moi. Nous étions tous les cinq à l'aise dans le vieux bar de l'Irlandaise. En ce temps-là, y avait Langlois, Machin et Chose, l'Irlande et moi. Le vent qui soufflait de la mer nous a pris dans ses bras de fer pour en emporter deux en douce. Il ne resta dans le cabaret après qu'ils se furent retaillés, car ils avaient le diable à leur trousse. Que Langlois, moi et ce curieux, gens de la Providence de Dieu. Y avait donc Jean, etc., Langlois, et la môme qui était moi, Langlois très fauché, mis les voiles, pour retrouver sa bonne étoile. Alors nous ne fûmes plus que deux, moi et la providence de Dieu. On me nomme aussi Saint-Jean Bouche d'Or, me dit ce grand matelot du Nord. Et quand je chante ma complainte, au petit jour, passé minuit, ici ou là, comme un défi, toutes les garces croient des saintes. Puis il disparut en chantant, autant en emporte le vent. Y avait machin, chose et langlois, maintenant il n'y avait plus que moi. J'étais seul devant les bouteilles et l'homme offrait d'autres merveilles. En souvenir de Jean, j'en bus deux et tout le reste à la grâce de Dieu. Que sont devenus mes copains? À dire vrai, je n'en sais plus rien. L'Irlandaise a fermé boutique, l'Anglois et choses ont disparu dans le décor des inconnus. C'est la faute au vent hystérique. Il fit entrer ce Jean de Dieu, sa providence et ses bons voeux. Lorsque le vent pleure en hiver et vous prend pour toute la vie avec ses orgues de barbarie. C'était en l'an 1902 au rendez-vous des amoureux.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Lala était plutôt fière d'elle. Bon, elle ne ramenait que Nedim, mais l'autre, ce Diamantis, que Gabi tenait tant à voir, il rappliquerait forcément quand il prendrait connaissance de son mot. Du moins, elle espérait bien que ça se passerait ainsi, Lala. Elle en doutait un peu maintenant, Nedim venait de lui confier que Diamantis n'était pas rentré de la nuit. À mon avis, tu vois, il s'est dégoté une chouette nana. Si ça se trouve, tiens, il va encore découcher cette nuit. On se passera de lui, pas vrai? Il jeta un regard à Lala. De profil, elle était toute excitante, autant que de face. C'était rare. Le profil, c'était l'essentiel chez une femme. Il en avait connu combien qui, dès qu'elle tournait la tête, ne laissait plus voir qu'un pif énorme ou un menton en galoche. Le profil de Lala, lui, il était parfait de haut en bas. Et Nedim n'en perdait pas une miette. Cette fille, elle méritait mieux que les lumières tamisées des nightclubs. Il matait ses cuisses surtout. Elle portait une jupe noire moulante, hyper courte. Le mouvement de ses jambes, quand elle freinait ou débrayait, lui filait des frissons dans le dos. Il brûlait d'envie de poser sa main dessus, mais il se raisonna. Merde, c'est pas parce qu'elle était venue le chercher qu'il devait se croire tout permis. Plus tard peut-être. Sûr même. Maintenant, il était persuadé qu'il l'emballerait, Lala. Et l'autre tordu d'Abdulaziz, les dominos, cette nuit, il pourrait se les carrer dans le cul. Ils avaient joué encore trois parties, en buvant du whisky. Nedim avait perdu les trois. « Tu veux pas la fermer un peu, non ?» lui avait dit Abdul. Il parlait trop, et ça l'empêchait de se concentrer. Mais bon, parler, c'était dans sa nature à Nedim. « Si on se parle pas, merde, à quoi ça sert qu'on ait une langue, hein ?» Il avait eu envie de lui répondre, mais il avait fermé sa gueule. Abdul jouait pour gagner et Nedim pour parler. Deux mondes qui ne pouvaient pas se rencontrer. C'est pour ça qu'il devenait jobard, Abdul. Il parlait peu et pensait trop. Pourquoi que vous vous tirez pas d'ici ? Il ne put s'empêcher de lui demander. Il débutait la quatrième partie. Parce que, répondit Abdoul. Et votre femme, elle en pense quoi ? Que vous êtes à glander, là ? Tu fais chier, Neddy. Mais est-ce que je t'en pose des questions, moi ? Ben justement, tiens, si vous m'en posiez, je vous dirais dans quelle merde je suis. C'est vrai, quoi. J'ai téléphoné à ma mère, je rentre, j'y ai annoncé, c'est fini, je partirai plus, maman, vous comprenez ? Alors maintenant, tout le village m'attend, vous comprenez ? Ma fiancée, surtout. Nedim, tu aurais pu y être là-bas. Ouais, ouais, d'accord, mais j'y suis pas. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vous le demande, hein ? Vous y croyez pas quand même que je vais aller ranger votre merdier à la con sur le pont ? Non, mais putain ! Il avait attrapé la bouteille et rempli le verre. « Écoutez, il avait dit en se penchant au-dessus des dominos, on peut trouver un truc. Dire que je me suis fait braquer par des Arabes, je sais pas, des Arabes. »« Bah oui, bon, vous m'avez compris, n'importe quoi, on peut inventer ici. »« Il me refile un peu de fric ou le billet de train et je me casse. »« Voilà, putain, c'est pas plus compliqué. » Un billet de train, c'est 100 dollars, 300 ou 400 balles qu'il pourrait tirer à Abdulaziz en jouant le con intégral, et peut-être autant à Diamantis en pleurnichant sur son épaule avec ça, il pouvait rentrer au village sans être trop minable. Il montrerait les dollars à sa mère, à Ezel et à son père et à ses copains, tout le monde croirait qu'il en a plein les poches, on le prendrait au sérieux, c'était le bon plan. Abdul s'est enfoiré de dingue, il n'avait pas répondu. « Joue !» Il avait juste dit ça. « Joue et ferme-la. »« Où on va ?» il demanda à Lala. Quand, sur le vieux port, il la vit s'engager quai de Rive-Neuve et prendre la direction de la corniche. « On va retrouver Gabi dans un bar. »« Ben, hé, t'es pas bavard aujourd'hui. » Nedim rigola franchement. Pour une fois qu'il se taisait, on le lui reprochait. Une fille, qui plus est, un comble, il aurait tout entendu dans sa vie. « Je peux te prendre une clope ?» Son paquet et son briquet, à Lala, étaient entre ses cuisses sur sa jupe. « Serre-toi !»« Si Diamantis n'est pas là, tu ramènes l'autre, Neddy, mais tu laisses un mot à Diamantis pour qu'il nous retrouve. » Lala n'avait pas posé de questions. Elle avait rappliqué à la porte 3A, la jupe à ras, la motte, les chemisiers légèrement ouverts, tout sourire devant le vigile, penché au-dessus de la banque d'accueil pour qu'il puisse mater ses seins le mieux possible, et expliqua qu'il désirait parler à Diamantis, un marin de l'Aldébaran. C'était plutôt urgent. Diamantis, il est second, pas marin, et il n'est pas là. À bord, il n'y a qu'un marin. Le capitaine est parti, ça fait un bon bout de temps. Ça concerne l'équipage ? Lala avait allumé une cigarette en le regardant fixement. Quand elle tirait sur sa clope, une longue bouffée comme ça, elle était irrésistible. C'est un type qui le lui avait dit, elle n'en doutait pas. « C'est quoi votre prénom ?»« Vincent, » répondit-il troublé. Ses yeux allaient des lèvres de Lala à son corsage. « Bon, Vincent, est-ce que je peux parler à Taksim, Nedim Taksim, le Turc, c'est ça ?» « Ben, c'est urgent, Vincent, puisque Diamantis n'est pas là. » Il avait verrouillé la barrière d'accès et il était parti chercher Nedim avec sa R5 de service. « Vous dites que je reviens, hein, si quelqu'un se pointe. T'inquiète pas, Vincent. » Elle aurait pu faire entrer 10 camions pour vider tous les containers du port. Ça la fit sourire, cette idée. Tout en conduisant, Lala pensait à Gabi. Depuis que Diamantis s'était amenée au Habana, elle n'était plus la même, plus nerveuse, plus distraite, lointaine et pensive. C'était pas son genre à Gabi. Les mecs, elle savait les faire craquer, payer, mais froidement, en technicienne. En Edim, elle avait repéré le parfait pigeon dès le premier coup d'œil. Elle avait fait un pas en arrière. « Oh, mon Dieu !» elle avait dit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui avait demandé Lala. Gabi s'était laissé tomber sur une chaise, choquée. Le type, là, avec Doug. Lala était partie jeter un coup d'œil distrait au type en question, puis elle était revenue vers Gabi. Elle tirait furieusement sur une cigarette. Qui c'est ? Un type que j'ai aimé, il y a longtemps. Il doit même plus se souvenir de moi. Et alors ? Et alors ? Tu te rends pas compte, Lala ? On lève un connard et je tombe sur lui, Diamantis. Non, elle ne s'en rendait pas compte, Lala. Qu'est-ce qui t'a fait, ce type? Ce qu'il m'a fait? Les yeux de Gabi s'étaient perdus dans sa mémoire. À cette époque heureuse et si brève où elle s'appelait Amina, elle ne se souvenait précisément que d'un seul instant, quand Diamantis avait soulevé délicatement le sweatshirt qu'elle portait à même la peau. Ses doigts avaient caressé son ventre avec une telle tendresse qu'elle ne sentait plus son corps. Une éternité après, elle avait su qu'elle lui appartenait pour toujours. Sa vie, depuis, n'avait été que pourriture et saloperie, mais dans son cœur, elle était restée fidèle à cet instant. « Emmène-moi !» elle avait murmuré à l'oreille de Diamantis. « Emmène-moi !» Gabi avait regardé Lala avec plus de tendresse que jamais. « Appelle Doug !» Gabi n'était pas la gérante du Habana, mais c'était elle qui faisait tourner la boîte avec Lala pour faire craquer les mecs. Elles étaient les meilleures. Les trois autres filles qui avaient été placées là ne leur arrivaient pas à la cheville, sans doute parce que Gabi et Lala faisaient ça en s'amusant, sans doute aussi parce que ni l'une ni l'autre ne croyaient en l'homme miracle qui les sortirait de là, sans doute encore et surtout parce qu'elles refusaient de coucher avec les clients. Doug se souvenait encore de la fois où Lala avoua à Gabi qu'elle avait suivi un client à l'hôtel. Lala n'était là que depuis 2 mois. Elle s'était ramenée à midi, penaude. Gabi, qui l'hébergeait chez elle, l'attendait, furieuse, au Habana. « Et il t'a filé combien ? 1000 ?» Non, elle n'était pas fière d'elle, Lala. Le mec en question, un journaliste parisien, lui avait promis le triple. La claque était partie. En une nuit, n'importe quelle pute du quartier se fait facilement 5 ou 6 fois plus. Il avait promis. La seconde claque arriva. « T'encaisses d'abord, ensuite... » Tu fais. C'est ça la règle. Alors si tu préfères être pute, va apprendre. Doug s'était pointé devant Gabi, obéissant comme un chien. À regret, il avait délaissé Diamantis. Son arrogance l'énervait. Il avait envie de se le faire, mais Doug avait peur de Gabi. Il craignait surtout Ricardo. Le Habana appartenait à Ricardo. Et Gabi aussi. Ils longèrent la corniche. Nedim réussit à décoller ses yeux des cuisses de Lala pour regarder la rade. Surpris par tant de beauté, le ciel et la mer se fondaient l'un dans l'autre sans qu'on puisse définir exactement la ligne d'horizon. Nedim n'était jamais venu jusque-là. Marseille, pour lui, s'arrêtait au vieux port et guère plus haut que la moitié de la Canebière. Il n'avait même pas pris la peine d'aller au-delà. Les villes n'existaient pas. Ici ou ailleurs, il ne faisait que les traverser, indifférents. Une ville n'était qu'une somme de bars, de boîtes de nuit et de putes. Les villes qu'il avait aimées étaient celles où il avait pris son pied. Istanbul, seule, existait. « C'est beau, non ?» l'interrogea Lala. « Tu connais Istanbul ?» Elle ne connaissait pas. Elle n'avait jamais quitté Marseille. Même Marseille ne lui était pas familière. Elle avait grandi un peu à l'écart de la ville, à Beaumont, un quartier italien à l'est, chez sa grand-mère, rue Tosca, un village de cité-jardin où chacun faisait pousser des tomates tout en sifflotant des airs d'opéra des rues du quartier, l'Acmé, Aïda, Manon, la Norma. Istanbul, tu verrais, tu craquerais. Il lui raconta les rues, les avenues, avec le grondement des autobus, les klaxons, les coups de frein, le brouhaha des voix humaines, la foule. « Comme ici, quoi !» répliqua Lala. « Ici, c'est rien. Et dis, tu sais comment on appelait Istanbul avant ?»« Constantinople !» Il fut surpris. Il l'avait oublié que ça s'appelait Constantinople. « Oui, 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 mais mieux !» Il regarda Lala, et là, il la coinçait. « La porte de la félicité !» Constantinople, ça ne lui inspirait rien, Nedim, mais la porte de la félicité, ça lui évoquait plein de bonnes choses. La première fois où il but une bière, fuma une cigarette, la première fois où il alla aux putes, tout ça, la porte de la félicité. Il n'avait jamais trouvé une expression plus belle pour dire « Allez, tout va bien ». Ouais, la porte de la félicité. Il rigola en regardant Lala. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins Perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.